Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alice Kagoné.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Oméga, la une de l'actualité. Le mouvement M30 Nabawopgo n'entend pas se résigner dans sa lutte pour la souveraineté effective du Burkina Faso. Il l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. Et puis l'ancien ministre du Commerce et député élu sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès au moment de l'insurrection populaire en 2014, Léonce Kone, porte plainte contre Bala Alassane Sakande et Émile Paré pour incendie de l'Assemblée nationale. Émile Paré dit n'avoir jamais été formellement saisi concernant ce dossier et dénonce une manœuvre politique. En sport, dans ce journal, sachez que le stade du 4 août ne sera pas prêt avant la fin de l'année 2022. Le ministre des Sports l'a annoncé hier au cours d'une visite de presse. Bienvenue donc à tous. Dénoncer à nouveau les accords contractés entre la France et le Burkina Faso, le mouvement M30 Nabawopgo, avec à sa tête Yeli Monique Kam, maintient sa position de rompre les liens avec l'ancienne puissance coloniale. La France et le Burkina, ce vendredi 19 août, les leaders de cette organisation de la société civile étaient encore face à la presse pour, disent-ils, faire le bilan de la marche pour demander le départ de l'ambassadeur de la France, Luc Allade. Une marche qui s'est soldée par la dispersion des manifestants à coups de gaz lacrymogène. On fait le point avec Rabiatou Kongo et Abdulaziz Zoulabou.
Cette opposition à la marche, pourtant pacifique, est une entrave à la liberté, a regretté Yeli Monique Kam, par ailleurs coordonnatrice de ce mouvement. Elle dénonce également la détention jugée arbitraire le jour de la marche jusqu'au vendredi 16 août de leur camarade Herman Zungrana. Ce dernier, accompagné de la coordonnatrice du mouvement M30, sera présenté au procureur le 16 août pour avoir bravé l'interdiction de la manifestation par l'autorité. Yeli Monique Kam, coordonnatrice du mouvement M30.
Étant des républicains respectueux des institutions de la République, nous avons naturellement plaidé coupable en reconnaissant les faits commis d'une part et en brossant le fond comme circonstance atténuante en lien avec l'objectif noble de notre manifestation qui vise à interpeller la France, un partenaire majeur dont l'assistance militaire contre le terrorisme est inféconde.
Après avoir plaidé coupable, les deux accusés vont ensuite bénéficier d'une liberté provisoire en attendant le jugement prévu pour le 26 août 2022 à 8 heures. Cet épisode n'entrave en rien l'engagement du mouvement M30 à mettre un terme aux différents accords entre le Burkina et la France. Plusieurs actions sont déjà en vue. Yeli Monique Kam.
Tous les actes administratifs de la commune de Ouagadougou seront désormais attaqués au tribunal administratif. 2. Une pétition est lancée pour collecter des signatures afin de déposer une plainte de dénonciation publique du caractère léonais et de violation des droits du peuple burkinabé en demandant l'abolition pure et simple de tous les accords avec la France.
Pétition sera déposée à l'ONU pour dénonciation du non-respect par elle de sa résolution 15-14 d'octroi de l'indépendance complète aux peuples indépendants d'exercer leur souveraineté et la poursuite de la sensibilisation pour mobiliser la masse.
Léonce Kone, ancien député du Congrès pour la démocratie et le progrès, a porté plainte contre le président du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, Alassane Bala Sakande, et le docteur Émile Paré pour incendie criminel à l'Assemblée nationale lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le deuxième mis en cause, Émile Paré, dit n'avoir jamais été formellement saisi concernant ce dossier et dénonce une manœuvre politique. Il était l'invité de Paul Mickey Rwamba à l'émission Carte sur table d'Oméga Média. Nous vous proposons un extrait de sa réaction.
Nous sommes dans une période de transition.
Oui.
Moi, j'invite la classe politique et les hommes politiques à être plus sérieux que ça. C'est de la politique politicienne.
Oui.
Je crois que le grand frère a eu tellement de démêlés avec son CDP. Vous vous souvenez, quand le CDP a perdu le pouvoir, il y avait des problèmes. C'est lui qui était là comme personne pour essayer de colmater les brèches. Il n'a pas pu. Et le président il dit, l'a déboulonné. Après, il est sorti aller avec Cadré. Et puis après, il dit que lui, il ne fait plus politique. Et le voilà qui surgit
mais
brutalement. Mais quand même, je vais vous dire...
C'est un citoyen lambda qui
non,
a donc le droit...
Non, de il n'est pas un citoyen lambda. Il a quand même une personnalité politique de ce pays. Il a été ministre de Blaise Compaoré. Il a été député. Et je crois quand même qu'à ce stade, par rapport même à son âge et par rapport aux questions de la réconciliation, je ne vois pas pourquoi il veut remuer le couteau dans la plaie sur la question de l'insurrection. De la part de Léon Skone, je ne m'attendais pas, parce qu'il connaît très bien les événements qui ont abouti à l'insurrection populaire. Et je dois dire que quand l'insurrection populaire a eu lieu, son propre parti, le CDP, a demandé des excuses au peuple. C'est une insurrection populaire, une insurrection du peuple burkinabé. Et je crois que le 30-31... c'est dans toutes les contrées du Burkina qu'il y a eu insurrection. Ce n'est pas à Ouagadougou seulement. Et je pense que pour un homme politique aussi averti, il ne devait même pas se lever, tirer dans ce processus insurrectionnel un ou deux éléments pour poser plainte. Non, je n'ai pas brûlé personnellement l'Assemblée nationale, mais je suis le premier à rentrer à l'Assemblée nationale. Et je dois vous dire que je suis calmement assis en train d'attendre le procès de l'insurrection populaire.
L'intégralité de ce premier numéro de Carte sur table, c'est à suivre ce dimanche 21 août 2022 à 11h et la rediffusion le même jour à 20h30 et 23h sur Omega TV canal 258 et sur toutes ces plateformes digitales. Parlons de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables. L'Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants a, à travers un point de presse tenu jeudi dernier, plaidé pour l'épanouissement des élèves et étudiants déficients visuels. L'occasion a également été mise à point pour faire une collecte de fonds afin de pallier aux difficultés de 10 personnes victimes de handicap visuel. Le compte rendu est signé Jean-Paul Ouédraogo et Issouf Ouédraogo.
La situation des personnes vivant avec un handicap préoccupe de plus en plus l'Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants qui en a fait son cheval de bataille. Afin de remédier aux difficultés de ces personnes, l'association a initié une campagne de collecte de fonds au profit de 10 personnes victimes de handicap visuel. Léon Ouédraogo, président de l'association.
Le projet que nous avons sur la table, notamment le projet de collecte de fonds de matériel didactique et de documents, il y a la formation également en informatique au profit des élèves et étudiants aveugles et malvoyants. La collecte, au fait, c'est demander aux partenaires de nous accompagner parce que le matériel n'est pas accessible, il n'est pas accessible au pays, il quitte l'extérieur, donc c'est difficile, les centres n'arrivent pas à pallier à toutes ces difficultés. Donc nous aussi, quelle manière nous pouvons aider nos petits frères à continuer les études sans problème et aider les parents aussi à réduire la charge des parents.
Présent à cette conférence, l'artiste musicien Seydou Nikiema, alias Nick Saïd, a profité de l'occasion pour faire un don de papier RAM à l'endroit des élèves et les étudiants non-voyants.
Je fus élève et là j'ai vu les difficultés qui étaient. Parce que nous avons souvent on a des problèmes pour avoir en tout cas des papiers pour écrire. Comme vous savez que nos cahiers, et avec le braille, ça occupe beaucoup le cahier. Parce qu'un non-voyant a besoin à peu près, ne serait-ce que pour une seule matière, il en a besoin pour toute l'année au moins 3 ou 4 cahiers. Et surtout, c'est des grands formats, 300 pages. Vous imaginez, les rames de papier, essayer de les relier, peut-être grâce à ça, ça va les permettre quand même d'avoir assez de cahiers.
La présente collecte de fonds a débuté en juillet dernier et l'Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants lance donc un appel aux bonnes volontés afin de contribuer à l'épanouissement des personnes victimes de handicap visuel.
De nouveaux projets pour lutter contre les changements climatiques. Le Centre-Ouest africain, deux services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée de terres huascales en collaboration avec les ministères en charge de la recherche, des ressources halieutiques, de l'environnement et la République fédérale allemande a procédé au lancement du projet Optimisation du solaire photovoltaïque pour la production d'hydrogène vert en Afrique de l'Ouest et deux autres études hier 18 août à Ouagadougou. Ce projet a pour objectif d'apporter une réponse technique à la question du dépoussiérage dans la perspective de la production d'hydrogène vert au Burkina Faso. Le point avec Gisèle Tirogo, Florentine Sommet et Alinta Ouedraogo.
Au Burkina Faso, la biomasse représente près de 80% de la totalité de l'énergie utilisée selon le ministère en charge des ressources halieutiques. Le projet PV2H est une expérimentation sur l'optimisation des centrales solaires photovoltaïques à grande échelle afin de lutter contre les changements climatiques et leurs effets. Dr Bruno Corgo est le coordonnateur régional des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert à Ouascal.
L'hydrogène peut bien parfaitement s'utiliser dans le secteur des transports, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur agricole et dans bien d'autres secteurs, dans beaucoup de procédés. Et son utilisation massive est un puissant moyen de lutter contre les changements climatiques s'il est produit de façon propre à partir d'énergie renouvelable. C'est pour cette raison que ce projet PV2H est en train d'investiguer, donner un démonstrateur de comment pouvoir produire l'hydrogène à partir des centrales photovoltaïques.
PV2H s'inscrit dans la dynamique de promotion des énergies renouvelables. Le Centre Ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres huascales a donc enclenché avec la République fédérale d'Allemagne le processus. Selon le coordonnateur régional des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert à Ouascal, la mise en œuvre du projet repose sur une combinaison d'analyses de données importantes et de travaux expérimentaux. Dr Bruno Corbu.
Si je prends l'exemple de la question des poussières, du nettoyage qui fatigue les exploitants de ces centrales-là, au regard de leur échelle, nous allons pouvoir investiguer quelles sont les technologies de robotique automatique qui peuvent être utilisées pour nettoyer rapidement en quelques heures au lieu de prendre plusieurs semaines pour nettoyer toute la centrale.
Le projet est financé par la République fédérale allemande à hauteur de 2 164 051 euros, soit environ 1 800 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre est assurée par Ouascal et sera mise en pratique à la centrale solaire de Zaktouli.
Il est midi et on s'intéresse à votre assiette. Pour être en bonne santé, il faut bien manger, avoir une alimentation saine, variée et équilibrée. C'est ce que nous conseillent les spécialistes. Les charcuteries sont par exemple d'excellentes sources de fer. C'est justement le domaine dans lequel Dr Ousmane Ouedraogo a choisi de se spécialiser. Chercheur à l'IRSAT Bobo, il a mis au point plusieurs recettes de charcuterie. Nous les découvrons avec Marina Traoré.
Du jambon, du pâté, des boulettes, de la viande séchée, ce sont des produits de plus en plus prisés chez les consommateurs qui se les arrachent dans les rayons des grandes surfaces. Pour rehausser le goût de ces produits, améliorer leur présentation ou leur conservation, des colorants, émulsifiants, édulcorants, antioxydants et autres conservateurs sont souvent utilisés. Des pratiques considérées par des scientifiques comme étant à la base de certaines maladies cancérigènes. Au regard de cela, Dr Ousmane Ouedraogo, chercheur en charcuterie, a développé des recettes semblables, des produits 100% naturels.
Quand vous partez dans un supermarché, vous prenez un saucisson, vous allez voir que la couleur est rouge. C'est ce nitrite de sodium qui rend ça rouge, mais il est toxique et il est cancérigène à la longue. Bon, nous ici, c'est la transformation de la viande en différents produits, en saucisses, en saucisson, en jambon, et en croquettes de viande que vous avez vues, en pâté nature, en moule. C'est des produits naturels, bio. Voilà, je ne mets pas de produits chimiques. Il n'y a pas de magie, c'est des épices et tout ce qu'on a comme bio.
En plus d'être naturels, ces produits peuvent être conservés longtemps à condition d'être au frais. Dr Ousmane Ouedraogo.
Je l'ai conçu depuis avril 2021 et il est toujours top.
Dr Ousmane Ouedraogo est chercheur à l'IRSAT Bobo. Il dit être disposé à former ceux qui le désirent afin de vulgariser les résultats de ses recherches.
Dans ce journal, on s'intéresse également au secteur de l'artisanat qui contribue pour plus de 25% du PIB et occupe plus d'un million d'actifs. Au Burkina Faso, ce secteur se trouve en difficulté depuis la recrudescence des attaques terroristes, la raréfaction des touristes, la diminution des visiteurs sont entre autres raisons qui expliquent la souffrance de ce secteur à en croire les artisans. Et à quelques mois de la 16e édition du CIAO, il lance un appel au gouvernement pour plus d'accompagnement. Voyons tout cela dans ce reportage de Bernabé Cabré.
L'artisanat, un secteur en agonie depuis le début des attaques terroristes. Du village artisanal, en passant par la vitrine du bronze à la maison de l'artisanat de l'association Bolo Barasso, le constat est le même. Un silence olympien règne dans les couloirs des exposants. Pas de clients ni de visiteurs dans les stands. Impossible alors pour les artisans de vendre leurs produits et vivre de leur art.
Ici au village artisanal, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on croit. Actuellement, les périodes, ça va pas. Ça va pas vraiment. C'est dû à tout parce que, tu vois les artisans, qui fait les artisans? C'est les étrangers qui paient les produits. Ça. Mais et si ils ne viennent plus, qui va payer les produits?
La difficulté, c'est une histoire de moyens parce qu'il n'y a pas le marché, c'est de un. Et en plus, les Burkinabés ne connaissent pas ces gens de travailler comme ça. Vous voyez, non? Ils préfèrent aller payer d'autres choses, du chinois.
Avec la crise, le pays, on a moins de visites, on a moins de clients. Les étrangers ont peur de venir.
Naturellement, à quelques semaines du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, les exposants se posent beaucoup de questions quant à leur participation à cette 16e édition prévue du 28 octobre au 6 novembre 2022.
Ce CIAO-là, non papa, les stands là sont chers avec nous. Et en plus même le CIAO-là, c'est les commerçants maintenant, ce n'est plus les artisans. Plus les commerçants, eux, ils ont des moyens maintenant.
Oui, on va prendre des stands. Avec la crise, c'est pas abordable. Avant, quand ça marchait, c'était abordable parce qu'on arrive à vendre beaucoup. Mais maintenant, nous-mêmes, on a peur même.
Outre l'obtention d'un stand à la 16e édition du CIAO, les artisans demandent à l'État plus de garanties sur le plan sécuritaire afin de rassurer les visiteurs étrangers.
La sécurité du pays, donc à faire plus de publicité, peut-être avec ça, essayer de rassurer les gens que vraiment le pays est en bonne sécurité. Avec tout ça, ça peut nous aider.
On demande de vouloir vraiment faire les bonnes publicités à toutes les chaînes vraiment que l'art puisse avoir.
L'artisanat contribue pour plus de 25% du PIB et occupe plus d'un million d'actifs au Burkina Faso. Mais depuis 2015, le secteur est confronté à des difficultés liées aux attaques terroristes. Les exposants appellent les autorités à plus d'engagement dans la sécurisation du pays.
Rendons-nous à présent dans le centre-est, précisément à Koupéla, qui est désormais bénéficiaire d'un espace course en direct. La Loterie nationale burkinabé a remis les clés des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre 2019 et du chèque de plus de 88 millions à un parieur, Moumouni Yaro.
L'espace course en direct de Koupéla est un bâtiment composé de trois guichets, d'une salle pour suivre les courses en direct et des bureaux pour le personnel. Lui, Patrick Kagigamde, directeur régional de la Lunabé de l'Est.
Les espaces courses en direct est un lieu où nous avons par jour une diversité de courses, allant souvent de 15 à 16 courses par jour. Donc tout parieur aura la chance de tenter autant de fois qu'il le voudra. Donc en ouvrant cet espace course en direct, c'est encore être plus proche des populations pour leur offrir des produits encore plus attrayants. Et c'est un espace agréable avec des tables bas, bien aérées, une salle climatisée, un confort absolu.
Parlant du gagnant, le directeur régional de la Lunabé l'a félicité et lui souhaité un bon investissement de ses fonds. L'heureux parieur a gagné en misant sur trois tickets de 300 francs CFA le 29 juillet dernier. Madame Diallo représente son époux Aruna Diallo.
On était de passage à Montero et on a misé et puis voilà, c'était de bons jours pour nous. Depuis très longtemps, il joue, des fois même, je plains pour mon ensemble, mais voilà, aujourd'hui ça paye. Donc on ne peut avoir que des sentiments de joie. Les projets, ça ne manque pas, mais on le fera à tête reposée.
La Lunabé a profité de l'occasion de l'inauguration de son espace pour remettre les clés de ses réalisations, dont les maisons des jeunes et des artisans de Tenkodogo, celles des jeunes de Garango et de trois bâtiments érigés au sein de la maison de la femme de Tenkodogo.
Dans l'actualité hors de chez nous, en Somalie, au moins 8 civils ont perdu la vie dans une attaque de Shebab dans un hôtel à Mogadiscio. Au moins 8 civils ont été tués dans les affrontements entre des islamistes radicaux Shebab qui ont attaqué un hôtel de Mogadiscio dans la capitale somalienne vendredi soir et les forces de sécurité tentant de les neutraliser, a indiqué samedi un responsable de la sécurité somalienne. Les assaillants étaient toujours retranchés dans l'hôtel tôt samedi. Des coups de feu sporadiques et de fortes explosions ont été entendus dans la zone. Le porte-parole de la police somalienne a indiqué à la presse que l'explosion avait été causée par un kamikaze. Le groupe islamiste lié à Al-Qaïda, les Shebab, qui sont depuis 15 ans engagés dans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien, ont revendiqué la responsabilité de l'attaque.
Omega Sport.
Suspendu en mars 2021 par la Confédération africaine de football, le stade du 4 août construit en 1984 ne sera pas prêt en septembre 2022 comme l'avait prévu le ministre des Sports. Cependant, les étalons pourront disputer leur premier match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dans le mois de mars au stade du 4 août, a rassuré le ministre des Sports qui était en compagnie de son homologue des finances pour une visite de chantier hier vendredi suivant Charles Da pour découvrir les nouvelles couleurs de cette infrastructure sportive.
Nous sommes au stade du 4 août, fermé depuis début 2021 pour réfection. Les travaux ont commencé depuis le 1er juin de la même année et semblent aller en pas de caméléon. La version normalisée du stade du 4 août attendue en septembre prochain ne sera plus possible, mais les travaux de réhabilitation finiront avant 2023, foi du ministre en charge des sports qui rassure que les étalons joueront ici au stade du 4 août leur prochain match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dans le mois de mars. Abdoulwa Boudrabo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi.
Et nous repartons avec un sentiment, disons, mitigé, pas totalement satisfait parce que les délais prévus, c'était en septembre, et dans un mois, au regard des travaux qui restent, il est certain que ce délai ne sera pas respecté. Mais la bonne nouvelle, d'une part, c'est que le prochain match des étalons se jouera en mars 2023. Et nous avons l'assurance que les travaux finiront très bientôt, avant fin 2022.
Le stade du 4 août renaît de ses cendres pour répondre aux normes européennes avec une configuration aux couleurs nationales, en témoignent ses sièges peints en rouge, jaune, vert. C'est un autre aspect de design qui se laisse admirer. Ici, les couleurs des sièges laissent voir le drapeau national. Dans cette enceinte de 35 000 places, les techniciens sont à pied d'œuvre pour pouvoir disposer entre 28 000 et 35 000 sièges. Lassine Ouattara, chargé de contrôle des travaux.
Nous sommes en pète sûr qu'on va avoir 28 000 places. Alors, je vous invite à regarder les sièges parce que qu'est-ce qui se passe? Selon les normes européennes, l'écartement entre les sièges, il est 10 cm à peu près. Nous, on s'est rendu compte que ces 10 cm là étaient un peu larges pour nous. Étant donné qu'au niveau de la CAF ni de la FIFA, il y a des exigences à ce niveau-là, on a ramené ça à 5. Et déjà, ce qu'on a posé, on a gagné 1000 places. Donc, je suppose que si on va dans ça, on va avoir autour de 28 000 et peut-être 30 000 avec tout ce qui est loge officielle.
Bien que certains responsables des entreprises en charge de la réhabilitation du stade aient été interpellés par la justice, les travaux se poursuivent normalement, à en croire le ministre en charge des Sports, Abdoulwa Boudrabo.
Effectivement, il y a eu une procédure judiciaire sur des entreprises donc, et des personnes donc, intervenant sur le chantier. Et nous ne pouvons pas dire plus, mais ce que nous sommes sûrs est qu'il n'y a pas une décision de justice et de nature donc, à instruire l'arrêt des travaux sur le chantier. Donc, vous pouvez le constater avec moi. Que les travaux continuent normalement.
Les travaux additionnels tels que la réfection de la pelouse et de la piste d'athlétisme seront pris en compte dans la réhabilitation du stade du 4 août afin que cette infrastructure sportive réponde aux normes de la FIFA, a indiqué le ministre.
Charles Da, et c'est avec ce reportage que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Adama Konaté. Au relais web, Yaya Diomandé. Devant ce micro, je suis Alice Fidéline Kagoné. Bonne suite de programme sur Radio Omega. Bel après-midi à tous.
Radio Omega, l'info en direct.